Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les avocats poursuivent leur grève, au moins jusqu'à demain, date limite qu'ils donnent au gouvernement pour finaliser des propositions. Les avocats qui craignent toujours que la réforme des retraites ne baisse leurs pensions. Les écoles d'architecture sont aussi en grève en ce moment. Là, le personnel critique le manque de moyens, vous l'entendrez. Et puis dans ce journal, nous irons à Madrid, en Espagne, où les agriculteurs et les éleveurs se mobilisent pour que leurs conditions de travail s'améliorent. Ils ont plaidé leur cause pendant 2 heures. Les représentants d'avocats étaient reçus hier soir à Matignon. Une réunion avec le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Justice Nicole Belloubet pour trouver un accord après 1 mois de grève. Les avocats protestent contre les changements que va induire la réforme des retraites, la fin de leur régime autonome et la baisse de leurs pensions. À l'issue du rendez-vous hier soir, il n'y a pas eu d'accord annoncé, mais une promesse, celle de faire des propositions d'ici demain jeudi. Christiane Ferralschul est la présidente du Conseil national des barreaux. Elle prévient le gouvernement.
Nous espérons des propositions qui seront à la hauteur de la crise actuelle. Ces propositions seront partagées avec les élus du Conseil national des barreaux, partagées à l'occasion de l'Assemblée générale qui se tiendra vendredi soir. C'est historique et inédit, vous avez 100% du barreau de France qui est en grève. Cela ne s'était strictement jamais vu. Ensuite, tout dépendra des propositions. Mais nous pensons avoir été entendu, en tous les cas, nous l'espérons très fortement.
Et pendant ce temps, chaque barreau vote indépendamment de poursuivre ou non la grève. Le barreau de Paris, ainsi, a décidé hier de continuer le mouvement. Eux aussi sont en grève, non pas pour défendre leur retraite, mais pour défendre leur travail au quotidien. Professeurs, personnels et étudiants d'École nationale d'architecture ont crié hier leur colère sous les fenêtres du ministère de la Culture. Ils étaient une 50aine, représentant la 20aine d'écoles publiques en grève depuis le début de la semaine. Tous se disent victimes de négligence et d'abandon de la part du ministère, Céline Autain.
Le mal-être commence tout simplement par certains locaux exigus dans des bâtiments qui, selon les enseignants, ne devraient plus ouvrir et par des dossiers sur la dégradation des écoles bloqués depuis des semaines au ministère de la Culture. Une situation matérielle qui s'ajoute à une surcharge de travail depuis la réforme des écoles d'architecture de 2018. Alessia Debiaz, enseignante à l'ENSA Paris-Lavillette.
La première année des mises en œuvre, nous étions tous enthousiastes parce que voilà, pour la première fois, on est autonome, on gère nos concours, etc. Mais en réalité, on s'est retrouvé face à une fausse autonomie. On se rend compte que le ministère s'est défait de toute une série de dossiers qui sont lourds à gérer en nous les redonnant sans aucune ressource humaine en plus.
La réforme acte également une nouvelle co-tutelle pour les écoles d'architecture, celle du ministère de la Culture et celle de l'enseignement supérieur qui promet la création de 50 postes de professeurs sur 5 ans.
Cette année, on découvre en décembre que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche rompt fondamentalement l'accord interministériel. Il ne donne pas les postes qu'il avait promis. Il a donné l'année passée, mais cette année, il n'a pas donné. Il y a quelque chose qui nous empêche, si vous voulez, de donner une bonne formation, de pouvoir organiser une bonne formation de tous les points de vue.
Un sentiment répandu dans les écoles d'architecture, alimenté par des chiffres. Elles sont 2 fois moins bien dotées en moyenne que les universités.
Et je précise que les directeurs des écoles d'architecture sont convoqués ce matin au cabinet du ministre de la Culture. Le patron des sports de glace en France ne démissionnera pas, en tout cas pas en l'état. Didier Gayaguet, à qui la ministre Roxana Maracineanu a demandé la démission, Didier Gayaguet, donc le patron de la Fédération des sports de glace, dit attendre le résultat de l'inspection. Il est accusé, je vous le rappelle, d'avoir fermé les yeux sur des agressions sexuelles dénoncées ces derniers jours dans le milieu du patinage artistique français. Ce matin d'ailleurs, plusieurs athlètes français affichent leur soutien envers les patineuses. Ils sont 54 athlètes à signer une tribune pour briser le silence et agir collectivement. Les violences envers les politiques maintenant. À Mayotte, un candidat sans étiquette au municipal a été violemment agressé à la sortie d'une réunion publique avant-hier. Son pronostic vital est engagé, il a été évacué par avion à La Réunion. Des violences physiques et des violences verbales qui se multiplient, Pierre Neveu.
C'était hier matin à Marseille. Martine Vassal, la candidate Les Républicains à la mairie, tenait une réunion publique lorsqu'elle a été violemment prise à partie par un groupe de femmes qui ont proféré des menaces de mort. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, la députée LREM de Seine-et-Marne, Michèle Perron, expliquait elle aussi avoir été menacée et agressée lors d'une cérémonie de vœux.
Il était tout à fait normal avant, mais il a vrillé, comme on dit, parce que c'est un être humain, parce qu'il a eu aussi, comme chacun de nous, des problèmes personnels qui sont venus se rajouter sur l'ambiance sociale française en ce moment.
Chargé d'assurer l'indépendance du grand débat, le politologue Pascal Perrineau a lui aussi constaté un durcissement de la vie politique en France, voire une radicalisation.
Il y a une forme de violence sociale, de violence politique, qui se développe sur un fond de malaise démocratique. Des Français qui considèrent au fond que les pouvoirs, les institutions issues des urnes au fond ne sont plus légitimes, même si ces hommes et ces femmes pour les députés sont encore en plein exercice de leur mandat.
Les élus ont toujours été à la portée d'engueulades, selon les mots du président du Sénat, Gérard Larcher. Mais aujourd'hui, le risque de dériver grand peut être par l'action des réseaux sociaux qui délégitime l'action publique. Le débat peut être vif, assure le Premier ministre Édouard Philippe, mais la frontière de la menace physique doit être proscrite.
Le Conseil d'État avait émis un doute sérieux sur cette circulaire. 4 jours plus tard, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, revient sur l'attribution des nuances politiques aux élections municipales pour mars prochain. Il demandait aux représentants de l'État de n'attribuer de nuances politiques aux candidats que dans les communes d'au moins 9000 habitants. Le seuil d'attribution sera donc finalement fixé à 3500. Il a 38 ans et il célèbre une victoire stupéfiante selon lui. Pete Buttigieg a émergé en tête des caucus démocrates de l'Iowa. Les premiers résultats sont encore partiels aux États-Unis, mais l'ancien maire de South Bend devrait être devant le sénateur Bernie Sanders avec au moins 1,5 point d'avance. Les résultats auraient dû être publiés hier soir, mais un problème informatique les a retardés. De quoi donner le sourire au président républicain Donald Trump qui prononçait lui cette nuit un discours sur l'état de l'Union. Il a notamment vanté son bilan et ses promesses tenues, a-t-il souligné. 490 morts en Chine à cause du coronavirus, plus de 24 000 personnes contaminées. Le bilan s'alourdit encore et les conséquences économiques se font également sentir. Le nouveau coronavirus va ainsi retarder les achats massifs de produits américains prévus par la Chine. Achats notamment agricoles qui étaient prévus dans le cadre de l'accord commercial préliminaire signé à la mi-janvier. En Espagne, à présent, les agriculteurs ont entamé une mobilisation ces derniers jours. Ils dénoncent, comme partout en Europe d'ailleurs, la situation critique que traverse le secteur en ce moment. Aujourd'hui, ils ont appelé un rassemblement à Madrid en fin de matinée devant le ministère espagnol de l'Agriculture. Et la colère monte, Marie-Hélène Ballesteros.
L'intérieur de l'Espagne au bord de l'explosion, c'est le titre choisi dimanche dernier par le journaliste Enrique Juliana de La Vanguardia pour décrire l'état d'esprit des agriculteurs espagnols. Ils manifestent depuis plusieurs jours à travers le pays pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. Ils dénoncent notamment la chute des prix des produits agricoles à la production. C'est le cas notamment de l'olive, du lait, des fruits et des légumes. Les agriculteurs espagnols critiquent les prix de misère auxquels ils sont contraints de vendre leurs produits aux intermédiaires et à la grande distribution. Les trois principaux syndicats espagnols agricoles, ASAJA, UPA et COAG, réclament une politique des prix digne qui leur permette d'avoir des bénéfices car d'après eux, actuellement la situation est insoutenable pour les agriculteurs et les éleveurs à cause du manque de rentabilité des exploitations. Le secrétaire général de l'UPA, Lorenzo Ramos, dénonce ainsi des ventes à perte avec des consommateurs qui achètent des produits au prix fort, des agriculteurs de plus en plus ruinés, tandis que les intermédiaires et les distributeurs continuent à spéculer et à s'enrichir sur leur dos. C'est pour manifester leur ras-le-bol que les agriculteurs et éleveurs descendent aujourd'hui encore dans la rue. Ils veulent tout simplement vivre dignement de leur travail. Mais au-delà des prix, il y a d'autres sujets d'inquiétude, comme la nouvelle augmentation du salaire minimum en Espagne, les droits de douane punitifs imposés par les États-Unis sur certains produits européens comme l'huile d'olive ou encore les importations agricoles massives extra-communautaires.
C'était Marie-Hélène Ballesteros, notre correspondante en Espagne. Revenons en France où le temps s'annonce plus sec ce mercredi, avec encore du vent sur le sud-est et sur la Corse. Il fait ce matin 5 degrés à Strasbourg et à Bordeaux, 6 à Lille, 7 degrés à Paris et Lyon, 12 degrés ce matin à Nice.